I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver comme toutes les semaines dans l'Amérique et vous sur VO Afrique. Nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. John Linden à la présentation, Georges Léonard Sagnoa sur la production de cette émission, assisté de Sims Lumami, mon ami Franklin C. Drac sur la régie. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. Dans l'Amérique et vous, ce vendredi, nous parlons des Américains accidentels. Ils sont nés aux États-Unis, mais sans y avoir étudié ni travaillé, ils sont considérés comme des contribuables par le fisc américain et donc contraints de déclarer leurs revenus. Recensés par milliers à travers le monde, à travers de nombreux pays en Europe, au Canada, en Afrique et en Asie et dans bien d'autres régions du monde, les Américains accidentels sont en fait les victimes collatérales d'une loi américaine votée en 2010, à savoir le Foreign Account Tax Compliance Act. C'est pour lutter contre la fraude fiscale des citoyens américains vivant à l'étranger que le Congrès américain a adopté cette loi en 2010. Elle impose aux banques étrangères de relayer toutes les informations sur les comptes de leurs clients américains. Des accords ont ainsi été signés par exemple avec les banques françaises pour que cette loi soit appliquée dans l'Hexagone. Une situation devenue un cauchemar pour beaucoup de binationaux qui n'ont pour le moment que deux choix, soit se soumettre à cette loi ou renoncer à leur nationalité américaine. Vous pouvez bien entendu intervenir au cours de cette émission en nous appelant au 202 au 001-202-205-2623. Vous pouvez également suivre cette émission en direct sur www.voafrique.com. Et pour discuter de cette situation des Américains accidentels avec nous, nous avons comme invité Fabien Lohagre. Il est fondateur du collectif français des Américains accidentels. Fabien, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci, restez avec nous. Nous avons également Kate Redmond. Kate, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur.
Voilà, vous êtes également américain et accidentel. Et enfin, on a Myland Chabert. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. On va commencer avec vous, Myland. On entend beaucoup parler d'Américains accidentels. Quand avez-vous réalisé, vous, que vous en faisiez partie et comment avez-vous réagi?
Sincèrement, je m'en suis rendu compte il y a uniquement quelques mois. Vraiment, il y a quelques mois. Je savais que j'étais née aux États-Unis, voilà, mais le concept d'Américain accidentel, je l'ai perçu vraiment que récemment.
Alors, et quand vous avez appris cela, quelle a été votre réaction? Vous étiez surpris que cela existait ou pas?
Oui, tout à fait, parce que je m'attendais pas du tout à être concernée par ce type de loi. Je n'ai très peu vécu aux États-Unis. J'y ai vécu que 3 mois et ça me paraissait vraiment incroyable de devoir remplir autant de documents, remplir autant de paperasses et de demandes pour ces 3 petits mois. C'est seulement vraiment récemment que j'ai découvert cette citizen-based taxation, c'est-à-dire le fait que le système américain me demande des impôts par ma nationalité et non selon mon lieu de résidence, en fait, parce que je vis en France, moi.
Voilà, donc on va discuter de tout cela dans cette émission. Fabien Lohagre, vous êtes fondateur du collectif français des Américains accidentels. Présentez-nous ce collectif pour ceux qui ne le connaissent pas et les actions que vous menez en France, notamment.
Alors aujourd'hui, ce n'est plus un collectif, mais une association à part entière depuis le mois d'avril. L'association compte un peu plus de 270 membres en France. Et la particularité, c'est que cette association grossit, on va dire, chaque jour, puisque chaque jour, de nouveaux Américains accidentels se déclarent, se retrouvent identifiés par les banques en France, mais également dans le monde. Donc pourquoi nous avons créé cette association? C'est tout simplement pour avoir, pour pouvoir fédérer les gens avec un seul objectif, celui de se défendre contre la pratique de la citizenship based taxation et contre FATCA, donc la loi américaine qui impose aux banques donc de déclarer toutes nos informations au fisc américain. Et c'est de convaincre le gouvernement français de se saisir du sujet et d'engager sans tarder des discussions avec les autorités américaines pour mettre fin à cette problématique qui concerne également les binationaux franco-américains, mais également les Américains expatriés, comme peut l'être Keith Redmond. Donc on a engagé assez récemment un recours en justice devant le Conseil d'État, qui est en attente d'être jugé, et on a bon espoir que celui-ci soit reconnu comme viable par le Conseil d'État.
Voilà. Merci Fabien. Vous parliez de Keith Redmond tout à l'heure. Keith, comment est-ce que vous avez découvert que vous étiez américain accidentel?
En fait, pour moi, je ne suis pas américain accidentel, je suis américain expatrié. Je suis français aussi, basé à Paris. Mm. Donc, pour moi, je suis comme un de facto représentatif des américains expatriés à Washington. Donc, je fais du lobbying de la part des américains expatriés, mais aussi également des américains accidentels. Donc, comme vous avez expliqué, le problème est pas juste la nationalité dont Fabien a parlé, mais la façon de fiscalité, la façon de taxation des États-Unis. C'est le seul pays dans le monde, sauf un petit pays africain, Eritrea, qui fait la taxation sur la nationalité. C'est basé sur la nationalité, pas où on habite. Vous voyez?
En clair, on vous demande de payer les taxes ou de déclarer vos revenus, même si vous ne travaillez pas et vous n'habitez pas aux États-Unis, mais pas simplement parce que vous êtes né américain.
Exactement. Donc, c'est-à-dire en France, où je suis basé, je paye des impôts en France, mais aussi je fais ma déclaration aux États-Unis. Et il y a des moments où je paye des impôts aux États-Unis en même temps.
Alors, Keith, je reste avec vous. Qu'est-ce que vous répondez au gouvernement américain lorsqu'il dit que c'est pour... D'abord, c'est une loi qui a été votée par le Congrès américain en 2010. Et puis, c'est pour lutter, disent les autorités américaines, contre la fraude fiscale. Est-ce que ce n'est pas un argument valable pour vous?
Si, c'est un argument valable pour les Américains qui habitent aux États-Unis, qui, entre guillemets, cachent leur argent au compte bancaire à l'extérieur des États-Unis, OK? Mais pas pour les gens comme nous, où notre banque est juste la banque de quartier à Paris, par exemple. Donc, ça, c'est le problème. Mais le problème fondamental est la taxation est liée avec la nationalité. Ça, c'est le problème.
Vous voyez? Tout à fait.
Exactement. Et ça, c'est à cause de fait qu'il y a des gens comme Fabien qui est dans une situation kafkaesque parce qu'ils sont nés aux États-Unis, mais ils ont quitté les États-Unis en 3 mois, quand ils avaient 3 mois. Donc, il n'y a aucun lien avec les États-Unis. Donc, ils sont dans un panier un peu différent par rapport aux Américains expatriés, mais quand même, on est dans le même panier.
Alors, Fabien, vous avez qualifié cette loi, cette législation d'inique. Pourquoi?
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme disait Keith Redmond, nous vivons en France. Nous avons toujours vécu en France. Pour ma part, je suis arrivé en France à l'âge de 18 mois. D'accord ? Je ne suis retourné qu'une seule fois aux États-Unis à l'âge de 27 ans avec mon passeport français. La grande majorité des personnes qui composent mon association n'ont aucun lien avec les États-Unis, si ce n'est celui d'avoir eu l'occasion, à titre touristique, de se rendre sur le territoire américain. Et donc le fait d'être en France aujourd'hui ne nous protège plus, puisqu'on se rend compte que à travers la législation FATCA, eh bien les banques françaises sont ni plus ni moins que des agents du fisc américain, puisque elles vont à la demande des États-Unis récupérer des informations nous concernant, mais également concernant nos familles, puisque dès lors que par exemple nous avons une procuration sur le compte bancaire d'un conjoint ou d'un enfant, eh bien ces personnes, leurs informations vont également être envoyées aux États-Unis. Donc il y a vraiment une extraterritorialité de la législation américaine qui pour le coup prend tout son sens à travers la mise en place de ce dispositif. Sans compter que derrière, ça met dans des difficultés vraiment très importantes les Américains accidentels, puisque aujourd'hui, vous avez un certain nombre de banques qui nous refusent tout simplement l'ouverture d'un compte bancaire. Les banques en ligne, par exemple, la quasi-totalité des banques en ligne françaises demandent dès l'ouverture du compte notre lieu de naissance. Et dès lors que vous mettez que vous êtes né aux États-Unis, eh bien, on vous précise que non, c'est pas possible de vous avoir comme client. Voyez.
Alors, est-ce à dire que certains de vos membres ou tous ceux qui se reconnaissent comme américains accidentels ne bénéficient pas des droits tels que le droit de vote, par exemple, ici aux États-Unis, ou alors vous votez seulement en France, Fabien?
Comme disait, on est français, on vit en France, on travaille en France, on vote en France. Donc le seul lien qu'on a avec les États-Unis, c'est celui d'être né sur ce sol américain. Donc non, on ne vote pas aux États-Unis, on vote en France. Mais en fait, c'est les États-Unis qui considèrent qu'on est pour eux des contribuables comme les autres.
Tout à fait.
Or, on n'est pas des contribuables, on est des citoyens français. Comme vous auriez des Américains accidentels au Sénégal ou au Cameroun, ils se sont avant tout des Sénégalais ou des Camerounais. Là, c'est la même chose. Nous, on est des Français avant tout et uniquement. Donc, on était fiers de cette petite nationalité américaine qui s'apparentait plus à de l'anecdote. Sauf qu'aujourd'hui, l'anecdote, pose vraiment de réels problèmes. Et on pourrait se dire, on va résoudre le problème en renonçant à la nationalité américaine. Sauf que dans les faits, les personnes qui ont voulu se débarrasser de la nationalité américaine, se sont retrouvées à payer des impôts, à payer des honoraires d'avocats, et pour certains, des sommes qui étaient voire très importantes.
Alors, est-ce que, ça c'est une question qui nous vient de la régie, est-ce que c'est vous-même qui faites le choix de ne pas être américain? Est-ce que vous pouvez décider de jouir de tous vos droits en tant qu'américain, ou vous avez simplement fait le choix de rester français puisque vous y êtes?
On a la double nationalité. Donc,
okay.
Pour les Américains, on est des Américains, et pour la France, on est des Français.
D'accord.
On peut renoncer à la nationalité américaine.
D'accord.
Pour pouvoir renoncer, ça suppose des démarches.
Alors, je vais me retourner vers Mylan. Cette loi est un véritable cauchemar selon certains Américains accidentels. Quelles sont les difficultés auxquelles vous, particulièrement, vous avez eu à faire face en relation avec l'application de cette loi où vous vivez?
Alors moi, je suis pas la pire des victimes. C'est vrai que c'est beaucoup de courriers depuis 2014, beaucoup de courriers qui me demandent de remplir des documents qui sont en anglais. Donc, je peux me débrouiller en anglais, mais ça reste très complexe pour moi. J'y comprends pas grand-chose. On me demande des numéros que je n'ai pas, parce que j'ai vécu que 3 mois aux États-Unis, donc je n'ai jamais eu de numéro de sécurité sociale, je n'ai jamais eu de numéro fiscal. Or, aujourd'hui, mes banques me demandent ces mêmes numéros. Donc, je ne sais pas comment remplir ces documents. Et c'est bien pour ça que pendant un moment, je ne me sentais pas du tout concernée. Et maintenant que je me renseigne pour obtenir ce numéro de sécurité sociale, il se trouve que les démarches sont très longues et très, très complexes. Et coûteuse aussi. On me demande de justifier pourquoi je n'ai jamais vécu aux États-Unis depuis mes 3 mois. Il faut que je prouve année après année que j'étais bien en France ou ailleurs, mais que je prouve bien que je n'étais pas aux États-Unis. Il y a des documents à demander et il faut les payer. Bon, c'est des dizaines, quelques dizaines d'euros, peut-être un peu moins, mais voilà, il faut les payer. Voilà, c'est des démarches très longues, très coûteuses, très fatigantes. Et puis voilà.
Alors, Keith Redmond, Mylan nous parle là des difficultés. Vous qui êtes donc aux États-Unis, et vous l'avez dit dans cette émission, vous faites du lobbying auprès des autorités. Qui est-ce que vous avez approché ici et quelles ont été les réactions ou les réponses?
En fait, les gens au Congrès, ils sont vraiment étonnés de cette situation. Ils ne savaient pas. Ils savent que quand on est né aux États-Unis, on est américain. Mais ils ne savaient pas que c'est vraiment un problème. Maintenant, au fur et à mesure, ils savent plus. Et ce qu'on fait aux États-Unis, on est en train d'attaquer l'administration américaine avec un procès. Donc, c'est plutôt comme en France. Et en fait, on a fait un recours au Cour suprême juste il y a un jour. Mais j'espère que ça marche parce que c'est contre la FATCA. Donc, c'est pour les Américains expatriés, mais aussi, bien sûr, pour les Américains accidentels. Donc, on fait le nécessaire parce que c'est vraiment une injustice.
Mais le Congrès ou les membres du Congrès que vous contactez peuvent ne pas ils peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant de cette loi puisqu'elle a été adoptée, elle a été votée par le Congrès. Est-ce que c'est pas une manière de vous tourner en bourrique, en quelque sorte?
En fait, le problème est la loi FATCA était dans une grande loi en 2010. Donc, c'était juste une page des centaines
de cette
pages
loi, tout
d'une
à fait.
Grande loi de Hire Act en 2010. Donc, la plupart des gens au Congrès, les sénateurs, les représentants, ne savent pas qu'il y a une FATCA, la loi FATCA. Maintenant, oui. Mais ils ne savaient pas que ça pose un problème pour les gens comme Fabien qui sont nés aux États-Unis. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la situation.
Est-ce que vous avez espoir que les autorités vont trouver une solution ou même la Cour suprême?
J'ai toujours un espoir.
Voilà.
J'espère. Oui. C'est plus que juste croiser les doigts. On fait vraiment une bataille. Parce que ça, ce n'est pas l'Amérique.
Tout à fait. Alors, en attendant, donc, la bataille se poursuit. Fabien, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour informer plus de gens? Et j'imagine qu'il doit y avoir là dehors des gens qui ne sont pas au parfum de cette loi et qui sont des Américains.
Tout à fait, oui. Bien, comme je vous le disais tout à l'heure, l'objectif de l'association, c'était justement ça, c'était de permettre aux personnes de se regrouper au sein d'une même structure. Aujourd'hui, donc comme je vous le disais, on est un peu plus de 270 au sein de l'association. Depuis le mois d'avril, j'ai identifié un peu plus de 400 Américains accidentels de plus. D'accord. Donc l'association, on va dire, a encore de beaux jours devant elle, malheureusement, du fait de la situation, puisque les banques ont des obligations à respecter à cause de FATCA et du coup mettent la pression, une pression de plus en plus intense aux personnes de nationalité américaine. Donc ces personnes, ne sachant pas vers qui se tourner, recherchent sur Internet et tombent maintenant assez facilement sur l'association. Donc ça, c'est le premier volet, c'est de grossir pour atteindre une taille plus importante, pour pouvoir peser sur le débat public et pour pouvoir, mettre la pression auprès des parlementaires en France, mais également auprès du gouvernement.
Voilà.
C'est le premier volet.
Voilà. Vous restez avec nous, chers invités. On va prendre quelques auditeurs dans cette émission. Hassan Oumar Boulalé à Djibouti. Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, quelle est votre réaction face à cette situation que vivent donc les Américains accidentels? Voilà, on a perdu Hassan. On va prendre Diarra Kanyoumé. Diarra, bonsoir.
Oui, bonsoir John, bonsoir tout le plateau de VOA Afrique. Je vous appelle toujours dans mon village natal à Sounoukini.
Voilà. Donc, votre réaction par rapport à ces Américains accidentels?
Bon, je pense que vraiment, il faut que le gouvernement américain doit faire plusieurs faveurs pour régler leurs problèmes par rapport à eux. Parce que, et tous, c'est les Américains, même s'ils n'est pas en Amérique, s'ils sont dehors de l'Amérique. Donc, le gouvernement américain, l'administration Trump doit faire faveur à eux pour que non, et tous, ils doivent être américains normalement par rapport à la citoyenneté. Donc, je pense que vraiment, il faut que Donald Trump, depuis la venue au pouvoir, donc, il ne peut pas régler plusieurs problèmes. Il faut qu'il doit trouver solution à ce problème rapidement parce qu'il n'est pas.
Voilà.
Il n'a pas choisi cette cas pour être un accident en Amérique.
C'est entendu. On a Steve Boko en Côte d'Ivoire. Bonsoir. Steve Boko, bonsoir. Voilà. Steve est loin de son téléphone. Est-ce que Steve est là finalement? Voilà, on va revenir à nos invités. Est-ce que, Fabien, vous avez, vous, souvent eu l'occasion de revenir quand même aux États-Unis?
Moi, je suis retourné qu'une seule fois, à l'âge de 27 ans. Donc, je ne peux pas dire que c'est. J'y suis retourné souvent. Pour la petite histoire, en fait, moi, je suis parti donc à l'âge de 18 mois avec mon père. Ma mère est restée aux États-Unis et je suis retourné à l'âge de 27 ans pour la revoir, pour la retrouver. Voilà.
Voilà.
Donc,
alors.
Je suis jamais retourné après, par la suite, aux États-Unis.
Voilà. Mylan le disait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quand même moyen de renoncer totalement à votre nationalité, même si ça doit coûter cher, parce que sinon, vous êtes contraint de vous soumettre à la loi en attendant qu'elle soit changée ou revue?
Oui, tout à fait. Il y a la possibilité de renoncer. Il faut juste savoir que, il me semble que Fabien l'a dit tout à l'heure, avant de renoncer, il faut déjà malgré tout se réguler fiscalement sur ces 5 dernières années. Donc c'est un processus qui est très complexe. Le système fiscal américain est vraiment très différent du système français. Donc les candidats à la renonciation doivent faire appel à des avocats fiscalistes spécialisés dans la taxation américaine et leur travail est extrêmement long et surtout très onéreux. Donc on va partir sur une base de 10-12 000 euros et puis après, en fonction de la complexité de son cas, les honoraires, les montants explosent, sans compter le tarif même de la renonciation qui est de 2350 euros. C'est quand même des montants assez élevés pour renoncer à sa citoyenneté américaine. Et c'est aussi un frein pour beaucoup de gens parce qu'on a très envie de renoncer, mais
c'est pas évident. On a envie de dire que beaucoup sont coincés. Alors Kif, on tire à la fin de cette émission. Le mot de la fin pour vous, ce serait quoi? Kif,
c'est une question pour moi. Oui, je suis là.
Le mot de la fin pour vous, ce serait quoi?
En fait, la fin est deux choses. L'abrogation de la loi FATCA. Ça, c'est clair. Et également, une changée de la fiscalité aux États-Unis basée sur une taxation de résidence au lieu de nationalité. Ce sont les deux qui sont importants. Mais pour les Américains accidentels, le plus important pour le moment est l'abrogation de la loi FATCA. Pas juste la loi américaine, mais aussi comme en France, il faut avoir France à l'abrogation de la FATCA aussi.
D'accord, merci beaucoup. Fabien Loacre, ce serait quoi votre mot de la fin?
Écoutez, en ce qui me concerne, j'espère que des Américains accidentels dans les différents pays vont pouvoir se fédérer, se regrouper comme nous l'avons fait en France, puisque sans les personnes n'arrivent pas à se regrouper, elles ne pourront pas peser auprès de leur gouvernement et, voilà. Demander à leur gouvernement d'agir.
Merci beaucoup à tous nos invités. Georges Léonard Sagnou assurait la production de cette émission, assisté de Sims Lumami. Franklin Sidra qui était à la régie. John Lyndon, je vous ai présenté cette émission. Je vous laisse en compagnie de Abdourahmane Dia pour les informations. Bonsoir.